Bonsoir à tous, jingle marche pas aujourd'hui.
Bonsoir, Kaola, good evening. Une émission spéciale, une émission de légende ce soir, puisque nous sommes en direct d'un ascenseur. Yvan est au studio, loin de nous. Il n'y a que Katie et moi dans ce petit ascenseur exigu d'Hobson Street, un ascenseur souterrain. Nous sommes coincés, enfin pas tout à fait coincés, entre le rez-de-chaussée et le niveau moins un. J'ai un ami, un bon ami, qui est un grand fan d'Amuse-Gueule, qui a reprogrammé l'ascenseur, de sorte qu'il voyage toujours certes verticalement, mais à une vitesse hors du commun, une vitesse qui frôle un record de paresse, une vitesse presque plus légère que l'air. Nous avons quitté le rez-de-chaussée, mais ça fait déjà au moins 20 minutes. Mais nous sommes encore très, 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 très loin du niveau moins 1 que nous devrions atteindre en toute fin d'émission, si tout se passe bien. Cette vitesse hallucinante de poésie, de rêverie est de 3,5 cm toutes les deux minutes. Nous sommes là, Katie et moi, très anxieux de la pause pipi, comme vous pouvez vous l'imaginer. Nous sommes là. En tête à tête, enfin je devrais dire en tête à tête, 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 parce que de chaque côté de nous se trouvent de majestueux miroirs qui nous reflètent à l'infini, des murs aux airs de Versailles dépouillés, post-industriels, où nous nous surprenons dans des angles inédits, parfois peut-être pas très flatteurs, mais en tout cas des angles nouveaux, des angles d'Amérique. Heureusement, il y a la musique. Entendez-vous aussi, chez vous, une musique trompe la mort, une musique trompe l'angoisse, une musique qui te susurre à l'oreille « Achète des cornflakes au chocolat !» Ne te soucie de rien, fais-toi plaisir, fais plaisir à tes enfants, fais plaisir à ta femme, fais plaisir à ta mère. Le bonheur n'attend pas, c'est ici, maintenant que ça se passe. Une heure, la lumière est un peu dégueulasse, une lumière de néon. Yvan, tu nous entends au studio, Yvan ?
Oui, oui, je vous entends, je vous entends.
Alors voilà, Katie, toi et moi, on va cocufier l'ennui pendant une heure, à parler des femmes, à parler du deuxième sexe, du beau sexe, celui qui a une forme de fleur. Toi, tu vas parler de Simone de Beauvoir, moi je vais lâcher du Sacha Guitry, qui nous fera part de ses réflexions sur le beau sexe. Mais tout de suite, je vais demander à Yvan, qui est en studio, de nous passer une musique qui me plaît tout à fait, qui m'égaye, qui me réconcilie avec à peu près tout. C'est Dick Rivers.
Allez, on y va.
Allez.
notre sommeil.
J'ai menti, mais comment m'en vouloir? Voilà, on n'est pas dans un ascenseur. Allez, je l'ai dit, j'ai voulu faire mon intéressant, j'ai voulu me hausser du col, comme on dit, j'ai voulu attirer un peu la lumière. J'ai voulu un petit coup de soleil, quoi, c'est tout ce que je réclamais, un petit coup de soleil.
On a eu du soleil aujourd'hui.
J'ai voulu tirer la couverture à moi, parce que ouais. J'avais froid à l'âme, j'avais froid aux pieds. Voilà, hein, c'est comme ça. Allez. Pardonnez-moi. Katie, bonsoir Katie, comme je suis heureux de te voir.
Bonsoir à tous, bonsoir Romain, bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Il y a longtemps que ça remonte à peu près une vingtaine de jours, ma dernière intervention ici.
Tu n'as pas changé.
Je suis de retour dans les studios. Je suis pas claustrophobe. Dans l'ascenseur, ça aurait été un peu dur, mais là, ça va dans les studios.
C'est
tu y as cru toi aussi, hein. Tu y as cru, t'avais des bouffées.
Oui, je commençais, ouais, j'y étais dedans complètement, à fond. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien parler un petit peu de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qu'on connaît pour son deuxième sexe. Et là, j'aimerais parler plutôt du derrière de Simone, dont on parle...
La face cachée de Simone.
Voilà, la face cachée de Simone, dont on a commencé à parler en 2008. En 2008, le Nouvel Obs a sorti un article, et surtout c'était sa couverture. On voyait une photo inédite de Simone de Beauvoir, de dos, nue, on voyait son derrière. Et cette photo, cette couverture plutôt, est sortie au moment de l'anniversaire de la naissance de Beauvoir et a soulevé un vrai tollé parce que toutes les féministes françaises se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça de vouloir réduire Simone à son derrière ?» Et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Les journalistes et les éditorialistes du Nouvel Obs ont justifié qu'au contraire, c'était une femme féministe qui revendiquait sa féminité et qu'ils trouvaient que c'était tout à fait approprié de montrer cette photo. Donc ça remonte à 2008. Et puis, ben voilà, le temps a passé, on n'en a plus parlé. Et juin 2017... La controverse est repartie. Controverse qui est née d'un article publié par une comédienne qui va jouer dans la nouvelle pièce qui s'appelle Les Amours de Simone. Et donc, à l'occasion de cette pièce, donc, cette comédienne a écrit tout un long texte sur Facebook que je vais vous lire. Cette comédienne s'appelle Camille Locard. Coucou malaise. Je sors de répétition avec un goût un peu amer sur le bout de la langue. Cette photographie, donc la photographie dont elle parle et la photographie du derrière de Simone de Beauvoir, cette photographie a été prise par Art Shay, photographe américain, en 1952. Cette femme, c'est Simone de Beauvoir. Ce n'est pas une photo volée. C'est la photographie d'une femme remplie d'amour, de joie, de vie, qui se laisse voir, qui laisse voir son corps, parce qu'elle aime son corps, et que son corps est beau, parce que c'est un corps humain. C'est la photographie d'une femme nue, de dos, pas l'ombre d'un téton ou d'un pubis, juste une belle paire de fesses charnues. C'est la photographie qui devait servir de modèle pour l'affiche du spectacle que je joue en septembre. L'affiche a été violemment censurée par J.C. Decaux, par le métro parisien et les colonnes Maurice. Je sors de répétition avec un goût un peu amer sur le bout de la langue, parce qu'aujourd'hui, en 2017, on censure une paire de fesses et on laisse vivre les images publicitaires vulgaires et putassières pour vendre une bagnole, un soutif, des yaourts ou un adultère sur Internet. Aujourd'hui, en 2017, en France, on censure la célébration d'un corps et on laisse les présentateurs télévisuels grossiers et tristement crétins humilier qui ils veulent dans leur intimité. Aujourd'hui, en 2017, en France, à Paris, on censure une photographie d'art avec un cul innocent sous prétexte que... Mais que quoi en fait ? Qu'un corps de femme c'est sale ? Qu'un corps tout court, c'est sale ? Chers censeurs moyenâgeux, qui posez vos grosses couilles sur la table, il s'agit du derrière potelé de la femme dont nous portons la voix. Il s'agit d'une des figures les plus brillantes de son temps, qui s'est battue pour faire entendre la parole des femmes, de toutes les femmes, qui s'est battue pour qu'on ait le droit de sortir de nos cuisines, de réfléchir, de voter, travailler, avoir un compte en banque, choisir ou non d'avoir des enfants, pour qu'on cesse d'être des bonnes femmes et qu'on soit d'abord et avant tout des êtres humains. Chers censeurs, vous me faites bien du chagrin et me mettez très en colère. Mais vous me confirmez que cette parole a désespérément encore besoin d'être entendue. Aujourd'hui, en 2017, en France, à Paris, et vous me rendez encore plus heureuse de l'y porter sur un plateau. Je ne vous sers pas la main, vous ne les êtes sûrement pas lavés en sortant des chiottes. Et voilà donc ce texte posté par cette comédienne, et c'est devenu viral. Des centaines de milliers de personnes ont signé et dit leur désaccord et en soutien à Camille Flocard. Et j'avoue que j'ai fait partie de ces gens qui ont liké ce post.
C'est bien, c'est bien.
Mais voilà-t-il pas qu'en fait, il ne s'agissait que d'une fake news, que d'une information fausse. Parce qu'en réalité, alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette photo. Cette photo prise en 1952 par Art Shay. Art Shay, c'était un photographe ami d'un des amants de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, on le connaît plus ou moins, a eu deux grandes passions dans sa vie, Sartre et Nelson Lagraine. Nelson, américain, écrivain américain, séjourne aux États-Unis et Simone de Beauvoir décide de lui rendre visite. Ça se passe dans les années 40-49. Elle se rend à Chicago où Nelson vit dans un taudis dans les bas quartiers de Chicago et il n'y a pas de salle de bain dans l'appartement dans son cher étendre. Et donc, Simone de Beauvoir demande à son amant de lui chercher un appartement où elle peut se doucher. Elle veut un appartement où il y a une baignoire. Et le meilleur ami de Nelson Lagraine est ce photographe Art Shay.
Plutôt Al Green ?
Pardon ?
C'est pas Al Green ? Nelson Al Green ?
Al Green, ouais.
Ouais, ouais.
Je le prononçais mal ?
J'avais compris Lagraine.
Ah non,
c'est
non.
Mon imagination.
Al Green !
Qui s'est disséminé.
Donc finalement, son amant lui trouve un appartement avec une douche. Elle s'y rend, conduite par le photographe Art Shay. Et Art Shay, pendant que Simone se lave ou s'essuie, il décide... Alors on va situer un petit peu l'époque. Hein. Simone de Beauvoir a 39 ans, Art Shay en a 27, et donc un peu taquin, un peu malicieux. Sans demander l'avis de Simone de Beauvoir, il lui prend cette photo d'elle, nue, dans la salle de bain. Elle s'en rend compte, ils en rigolent, et en fait, ça s'arrête là. Art Shay ne publie pas ses photos. En fait, il range les négatifs quelque part dans sa cave, et les années passent, il oublie cette photo. En plus, il a eu des dégâts des eaux, des inondations. Il oublie cette photo, donc photo prise à l'époque 1950, en 1942, parce qu'elle a fait le va-et-vient États-Unis, France pour voir son amant. Donc cette photo remonte à cette époque-là. Il oublie cette photo. Et vers les années 2000, Archer publie un livre avec toutes les vieilles photos, tous les négatifs qu'il a retrouvés, les clichés de célébrités ou de non-célébrités, de gens qu'il a retrouvés. Il retrouve cette photo. Elle est publiée sur le Nouvel Obs, ça fait tout son bruit, et puis on l'oublie. 2008, on n'en parle pas. 2017, il y a cette pièce qui est montée, donc Les Amours de Simone, et le groupe de comédiens, les gens de la production, estiment que pour affiche des Amours de Simone, rien ne vaut que ce cliché d'Archie. Donc ils en parlent entre eux, ils en parlent avec les comédiens, ils suggèrent, ce serait vraiment bien de la voir, mais ça s'arrête là. Et la comédienne, en fait, n'a pas compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ensuite. C'est que les gens de la production ont essayé d'avoir cette photo, mais c'était impossible pour des problèmes de copyright, etc. Et donc ça leur revenait à beaucoup trop cher de publier la photo de Simone de Beauvoir, et donc ils ont préféré avoir un modèle qu'ils ont photographié de dos, un peu un pastiche de cette photo, et c'était ça, cette nouvelle photo qui a été gardée. Mais la comédienne, n'ayant pas compris toute cette histoire, a décidé de poster ça, et nous sommes tout un groupe de moutons, dont moi. Nous nous sommes enflammés sur cette histoire, et tout de suite après, il y a eu un démenti de Co et de la production pour dire, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est un problème de droit d'auteur. Et donc, il n'a jamais été question de censure, au contraire, nous voulions cette photo, et donc, la production a exigé que la comédienne publie sur son site leur propos à eux pour démystifier toute cette histoire. Donc voilà, le derrière de Simone continue de faire parler de lui, et ça sera donc une pièce qui va sortir au théâtre Lucernaire en août. Pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'aller en France à ce moment-là, ben n'hésitez pas à aller regarder cette pièce.
Et puis, tu peux nous expliquer à nous et aux auditeurs qui est Simone de Beauvoir?
Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est une philosophe française. Elle a fait l'école normale supérieure, et c'est quelqu'un donc qui a monté avec son comparse d'études une revue qui s'appelle Les Temps modernes. Elle a énormément publié des textes de philosophie, et le plus grand texte connu, énorme par son volume, était Le deuxième sexe, où elle revendique la condition de la femme et elle fait tout pour l'émanciper.
Donc c'est une féministe.
Non, c'est même la reine des féministes. C'est la grande phrase tirée de ce livre, c'est on ne naît pas femme, on le devient. Dans la pure tradition existentialiste, on fait ce que l'on est, ou plutôt c'est la société, c'est le dehors qui nous impose ce que l'on est. Il faut trouver sa voie à travers les faisceaux d'injonctions du monde extérieur.
Est-ce que c'est intéressant, la lecture de Simone de Beauvoir?
Je sais pas, pour ma part, son volume m'a toujours dissuadé.
J'avoue que moi aussi.
C'est
j'avoue que moi aussi, j'en ai
c'est
vu
un,
que
c'est un peu
des
comme
extraits.
la lettre et le néant dans lequel on peut picorer parce qu'il y a des très beaux textes, mais parfois c'est très ardu. Est-ce que c'est aussi ardu philosophiquement que peut l'être Sartre parfois?
Non, moi les souvenirs que j'ai sont plutôt des souvenirs de passages très accessibles. Mm-hmm. Moi je trouve que son écriture est limpide. Et je la trouve beaucoup plus accessible.
Oui, très très littéral. Je me souviens d'un passage dans un recueil sur la femme au foyer et son ménage que Simone de Beauvoir compare au mythe de Sisyphe. cette entreprise qui n'en finit pas, qui recommence sans cesse.
Ouais, qui consiste à remplir un tonneau.
Enfin, merci pour cette démystification, parce que je connaissais la polémique, mais pas du tout cette histoire de droit d'auteur, qui en fait ne remet pas tout à fait les choses à plat ou en perspective, parce que le débat sur l'objectivisation du corps, et principalement de celui de la femme, c'est celui qui fait vendre le plus.
Le débat a été annihilé. Nous, sur tous les gens qui ont soutenu cet article, on était choqués effectivement que ce corps nu puisse porter, qu'il puisse y avoir autant de controverses, sachant qu'en France, on envoie des corps nus partout. Et donc.
Certes, mais dans un livre, oui, dans un livre ou même dans un magazine qu'on fait le choix d'acheter. Qui ne nous est pas imposé sur un poster dans la rue, sans être pudibond et pas du tout puritain. C'est pour cette raison que je suis pour l'érotisation des corps. Rien ne m'insupporte plus que le naturisme, par exemple. Je ne supporte pas qu'on puisse présenter une paire de seins comme quelque chose d'anodin, de bêtement naturel, comme un bâillement ou des ongles sales. Non, c'est je veux garder l'imaginaire de ces parties défendues, interdites. En tout cas, il faut qu'elles le soient un tout petit peu pour être désirables.
Oui, mais dans les camps de naturistes, tu ne vas pas pour l'érotisation du corps, quoi. Au contraire, c'est une façon de dire, nous, on a envie d'être à l'état de nature, et le côté érotique, il disparaît. Mmh. Justement, quand tu es dans un camp de naturiste, tu vas faire tes courses tout nu, tu fais plus attention du tout. D'ailleurs, les critères d'esthétisme, tu ne les appliques plus dans un camp naturiste. Tu vois les gens comme ça, comme ils sont, et ça devient tellement normal. Ils font leurs courses, quoi. Ils font juste leurs courses tout nu.
Ouais. C'est odieux, surtout encore d'hommes. Berk. On va écouter un peu de musique.
Chacun son trip.
Hein. Avant de revenir à ces affaires très sérieuses, on va écouter Variation sur Marie-Lou de Gainsbourg, de chansons dont l'anonymat est absolument incompréhensible.
Absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches aux mentoles entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis. Je lis le vice et je pense à Carole Lévis. Absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches ointoles entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis Carole. Son regard absent et son iris absinthe. Quand crash des enceintes, de la sono lançant accords de cartes et de quintes. Tandis que Marilou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Lorsqu'en un songe absurde, Marilou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, et son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, un peu du bleu lavasse de sa paire de Lévis, tandis qu'elle exhale un soupir au menthol. Un débile mental perdu en son exil physique et cérébral joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail apparaît. Elle s'y coca-colle à un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris près du calice, le vertige d'Alice de Lewis Carroll. Obscurs, Marilou se résorbe, que son coma absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris absinthe, subrepticement se teinte de plaisirs en attente. Perdu dans son exil physique et cérébral, elle exhale des soupirs fébriles parfumés au menthol. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip. Et Narcisse, elle pousse le vice dans la nuit bleue lavasse de sa paire de Lévis. Arrivée au pubis, de son sexe corail écartant la corolle, prise au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os au pays des malices de Lewis Carroll. Iris, absinthe, babydoll, écoute ses idoles. Jimi Hendrix, Elvis, Presley, T-Rex, Alice, Cooper, Lou Reed, les Rolling Stones, elle en est folle. Là-dessus, cette Narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleu pétrole de sa paire de Lewis. Elle arrive au pubis et très cool au menthol. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vice jusqu'au bord du calice, d'un doigt sexe symbole s'écartant la corolle. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice au pays des malices de Lewis Carroll.
Yvan, penses-tu que l'amour soit une invention, une sorte de complot qui servirait à nous vendre des céréales, des trucs comme ça?
Je sais qu'on utilise beaucoup le corps féminin pour vendre des choses, hein, comme tu l'as souligné dans les publicités. Je trouve qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas trop d'ailleurs de corps nus sur les pubs, non?
Et encore moins sur les plages.
Et encore moins sur les plages, ouais, c'est vrai. Mais...
Yvan, tu as une annonce d'importance.
Ben ouais, je voulais vous parler de Action Station. Ça s'appelle Kai et Korero. Alors Kai, c'est la nourriture. Korero, je sais pas trop ce que c'est. Et c'est des repas qui sont organisés dans la communauté, bien souvent dans des lieux publics ou dans des lieux privés chez les gens. Et c'est en fait les voisins, les gens de la communauté qui sont invités autour d'un bon repas. Je précise, un bon repas, la bonne nourriture.
Qu'est-ce que tu appelles un bon repas? Parce que les critères diffèrent selon que l'on est en France ou en Nouvelle-Zélande.
Bon,
je vais vous surprendre. Sachant que l'on mange mieux en Nouvelle-Zélande qu'en France, du moins au restaurant.
Ouais.
On est moins souvent désagréablement surpris.
Je vais pas au restaurant et je mange en général pour pas trop cher. Mais là, par exemple, à midi, il y avait deux soupes qui étaient délicieuses, aussi bien l'une que l'autre, et puis du bon pain, et puis des fruits, du fromage, et puis du gâteau. Donc c'était bon, moi je suis pas difficile, et puis non, c'était bon. Et puis donc les gens, on se réunit pendant 2 heures et on discute d'un thème précis. Alors aujourd'hui c'est tout d'abord on nous demande de choisir des cartes, des petites cartes comme ça. Alors on a les thèmes qui sont écrits en maori, par exemple Aroa. J'avais choisi celle-là, c'est l'amour, la gentillesse, la compassion, l'empathie, sans discrimination. Et le but, c'est en fait de dire pourquoi on a choisi cette carte. Il y en a plein d'autres. Il y a mana, il y a plein de mots maori, bien sûr. Il y a l'amour, l'égalité, la paix, la spiritualité, la communauté, la curiosité, la créativité, la tradition, la sécurité. Fano, la famille, quoi, au sens large maori. Donc chacun choisit une carte et essaye de trouver les mots pour dire pourquoi ils ont choisi cette carte par rapport à la vision qu'ils ont de la Nouvelle-Zélande en 2040. Qu'est-ce qui pourrait s'améliorer en Nouvelle-Zélande en 2040? Alors il y a beaucoup de choses qui vont pas en Nouvelle-Zélande, bien entendu. Et autour, il y avait à peu près 10 participants à chaque fois. La dernière fois, c'était un peu plus. Et ce qui ressort souvent, c'est d'énormes problèmes avec les agences gouvernementales comme WINS ou Housing New Zealand, qui n'arrivent pas à faire face à la pauvreté et puis au manque d'HLM. En fait, State Housing, c'est des HLM. Et moi, la nuit dernière, j'ai fait une marche à 3h du matin, comme d'habitude. Et il y a des mecs qui, quand même, dorment dehors à 5 degrés. Ils dorment dans la rue, hein, en Nouvelle-Zélande.
Moi, je peux t'interrompre, Yvan. Donc, c'est qui a eu l'initiative de ce Kai et Korero?
C'est un groupe qui s'appelle Action Station. C'est un groupe apolitique.
D'accord. Donc, c'est une association.
Je ne sais pas si c'est une association. J'y ai pris part, j'en ai fait deux et après il y a des questions, il y a des histoires en fait, des histoires réelles de gens, de Néo-Zélandais qui galèrent pour des raisons diverses en fait. Et aujourd'hui nous on avait pris une mère seule qui avait des gros problèmes avec WINS, qui était... qui lui donnait pas assez d'argent, bien entendu, et qui complique la situation pour beaucoup de monde. Enfin, c'est les gens qui sont avec Queens pour en parler. Moi, bien entendu, j'ai été avec eux aussi. Donc, d'énormes problèmes. Et ce qui ressort par rapport à la question, donc enfin une étude de cas, et puis de dire qu'est-ce qui pourrait améliorer les choses pour cette personne.
Donc vous amenez des solutions. Alors cette personne-là, c'est une étude. Enfin, c'est pas une étude de cas, c'est quelqu'un de réel. Et vous êtes ensemble pour faire un peu.
Voilà. Chacun apporte.
Une tempête de cerveau, mindstorming pour ne pas utiliser ce mot-là, d'accord. Vous faites une petite tempête de cerveau pour voir un petit peu, pour apporter des solutions concrètes à cette personne en détresse.
Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait faire que les choses aillent mieux pour cette personne, pour qu'elle tombe pas dans la pauvreté extrême? Parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est bien joli, tout le monde vient en Nouvelle-Zélande et on décrit quand même un pays. Super beau et tout ça, ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a quand même un enfant sur quatre qui vit dans la pauvreté la plus absolue, quoi. Et personne ne fait rien, quoi. Tout le monde, le monde ignore cette pauvreté. Ouais. Et en premier, les politiciens.
Ouais. Et ceux qui votent pour eux.
Donc on a les élections en septembre, sans faire de politique. C'est juste une constatation. C'est qu'il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de violences domestiques, il y a beaucoup de problèmes d'alcool, il y a beaucoup de problèmes de drogue. Le mois dernier, il y a quand même 9 personnes qui sont mortes à Auckland avec du cannabis synthétique, qui est 80% plus fort que le cannabis naturel. Donc je sais pas comment ils se procurent ces drogues. Et dedans, ils ont trouvé qu'il y avait un produit mortel. Donc, il y a 9 personnes qui sont mortes. Donc, la police fait sûrement son enquête et tout ça, quoi. Donc, il y a de gros problèmes aussi en Nouvelle-Zélande. Faut pas s'en cacher, quoi.
Donc, le cas Coleo, c'était la dernière.
Aujourd'hui, c'est la dernière
journée. Voilà. La dernière.
Et le but, un peu, c'est de réunir tout ce que les gens ont dit et de le mettre sur papier pour les politiciens. En fait, qui sont au pouvoir. Donc, en ce moment. En ce moment, d'ailleurs, de partout, on voit fleurir les affiches publicitaires pour les politiciens. Non ?
Ah, si.
Oui, voilà. Si. Donc, c'est le 23 septembre, les élections. En Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, ça s'appelait Action Station. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça réunit un peu des gens.
Comment t'as eu vent de cette initiative?
Ah, ben, en fait, c'était sur Neighbourly. J'ai trouvé ça sur une annonce sur Neighbourly. Et je me suis inscrit. J'étais agréablement surpris parce qu'en plus, on a super bien mangé, on a bien rigolé. Et puis, ça te permet de rencontrer plein de gens d'horizons différents, quoi.
Et ces gens qui se présentent, qui prennent la parole pour faire part de la difficulté de leur situation, l'auditoire les aide avec des conseils juridiques, administratifs.
Non,
ça se passe pas comme ça.
Même pas. En fait, les gens ne parlent même pas de leur situation parce que ils sont là pour essayer de trouver des solutions par rapport à une étude de cas plutôt.
D'accord. Donc il y a pas les personnes en difficulté ne sont pas là en chair et en os.
Peut-être, il y en a, mais les gens qui sont en difficulté, en général, ils ont d'autres problèmes, ils vont pas se joindre trop à ces cercles-là, quoi. C'est surtout des gens qui veulent essayer d'améliorer les choses, quoi, pour la Nouvelle-Zélande, pour nos enfants.
Combien?
Aujourd'hui, on était une douzaine, et la fois précédente, peut-être une vingtaine. Ça dépend où ça se passe et comment c'est organisé.
Donc ça, c'est intéressant. Ils ont l'intention de refaire ce projet?
J'espère, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, en plus, on mange bien, puis ça permet de rencontrer des gens. Moi, ça m'a bien plu, en tout cas. Puis j'ai trouvé l'idée intéressante, parce que c'est pas du tout politique. Enfin, je veux dire, c'est politique dans le sens où on parle de questions politiques, mais c'est pas organisé par un parti précis. Hein.
Est-ce que tu sais si ça s'était déjà fait avant?
Ah, ça, je sais pas du tout. En tout cas, si vous voulez regarder, je crois qu'ils ont une page Facebook. Ils ont,
oui, je regarderai.
Ça s'appelle donc Action Station. Kai, c'est la nourriture. Correro, je sais pas ce que c'est. Mais,
on mettra ça sur notre blog, sur notre site.
Et c'est très intéressant. Mais donc, ce qui ressort vraiment, c'est d'énormes problèmes avec WINS, IRD, et puis Housing New Zealand, hein, parce que les gens qui dorment dans la rue, c'est parce que on leur propose rien du tout, quoi. On les laisse crever dans la rue. Hein. Il y a quelqu'un qui est mort la semaine dernière, d'ailleurs, dans le North Shore, hein, à côté d'une église. Donc, voilà, quoi. C'est ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, c'est la vérité, quoi. On peut pas s'en cacher non plus, donc après, faites votre choix pour quand vous allez aller voter. Hein. Faites votre choix.
En parlant de choix, on va écouter
une petite musique.
Ouais, une sorte de mise en musique d'un problème de perspective, d'équilibre, flic ou voyou. C'est la musique d'un film de Belmondo, qui est très bien, très très bien. Mesdames, surtout messieurs, il est l'heure d'ajuster son nœud pape, d'enfiler sa robe de chambre, de se glisser dans son fauteuil en cuir près de la cheminée ronflante et d'écouter le grand, le magnifique, l'incomparable Sacha Guitry qui nous parle de notre bien le plus précieux. Non, je l'ai mal dit. Qui nous parle, il va parler des femmes quand tu as un truc qui est bien, qui est classieux, qui est pimpant. Je veux une métaphore, je sais pas. Non, ok. Ok.
Qu'est-ce qu'il va nous dire sur les femmes?
Non, bah tu t'écoutes, c'est quoi, c'est tout. Quoi,
mon père disait très justement que l'on ne pouvait parler d'amour et de théâtre qu'à bâton rompu. J'ajouterais aujourd'hui à bâton rompu sur le dos des femmes. Car parler des femmes, c'est en dire du mal, quelque bien qu'on en pense. Et cela pour cette raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer l'importance qu'elles ont et la place qu'elles tiennent dans votre existence. Donc permettez-moi de ne pas mettre de gants et de vous en parler comme si nous étions entre amis très intimes le soir au coin du feu, formellement décidés à ne pas se froisser d'une opinion librement exprimée que celui qui parle d'ailleurs ne vous oblige pas du tout à partager. La pensée de faire sur les femmes une conférence, une causerie plutôt, ou mieux encore, un bavardage, cette pensée me plaisait infiniment. Mais la nécessité de me faire une opinion équitable sur elles m'a plongé tout de suite dans un grand embarras. Je crois qu'il est en vérité difficile à un auteur dramatique d'avoir sur les femmes une opinion justement équitable. Pour peu qu'il ait écrit une vingtaine de pièces sur l'amour, et c'est mon cas, il aura joué toute sa vie un double rôle, tour à tour accusateur et défenseur, puisqu'une scène est un dialogue, il lui arrive parfois de faire triompher des idées qui ne sont pas les siennes, mais dont il devient l'esclave si ses pièces réussissent. Le cas m'est arrivé avec Jean de La Fontaine. Au troisième acte de cette pièce, pour bien marquer le caractère amoral du fabuliste, je lui faisais dire ceci. La fidélité n'est pas une qualité humaine. Une qualité dont on ne fait bénéficier qu'un seul être à la fois ne saurait être une qualité. L'indulgence, voilà la grande qualité. N'être pas l'ennemi des plaisirs de l'autre. Un homme n'a pas le droit de compromettre les minutes de bonheur qu'une femme peut avoir et qu'elle ne lui vole pas, car on ne vole personne, et les baisers qu'on donne à l'un, on ne les aurait pas donnés à l'autre. Eh bien, je ne partage pas du tout cette opinion. Or, j'ai créé ce rôle, et tous les soirs, pendant 6 mois, je me suis appliqué à faire applaudir cette théorie que je désapprouvais. Quand un auteur dramatique joue ses propres pièces, il a toujours l'air de partager les opinions du personnage qu'il interprète. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dit que je racontais ma vie privée dans mes pièces, ce qui est naturellement complètement faux. Donc, désireux de me faire une opinion sur les femmes, je me suis posé une dizaine de questions auxquelles j'ai répondu le plus honnêtement. Eh bien, mes réponses témoignent d'une véritable passion pour la femme et d'une très vive animosité contre les femmes. Je n'en tire aucune conclusion, mais j'ai souvent constaté ce fait chez les hommes qui consacrent aux femmes la moitié de leur existence. Et puis, vous savez, ceux qui disent toujours du bien des femmes sont généralement des hommes qui en changent tout le temps ou bien qui n'en changent jamais, ce qui m'incite à penser qu'elles ne jouent pas dans leur vie un bien grand rôle. Eh bien, à table, si j'ose dire, et parlons des femmes. Je n'aime pas les femmes, je n'aime pas le commerce des femmes, et toujours je me sens mal à mon aise avec elles, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles pensent. Et si je pouvais me permettre d'exprimer un vœu, je les voudrais surtout plus indulgentes entre elles. Car si elles ne s'occupaient que des hommes, elles seraient en somme bien plus agréables à fréquenter. Le malheur, c'est qu'elles s'occupent aussi des autres femmes. Sitôt qu'une femme est aimée par un homme, on dirait que toutes les autres femmes ont été abandonnées par cet homme-là. Certes, elles ont du cœur, elles ont beaucoup de cœur, mais leur cœur est singulier. Si une femme est malheureuse, elles lui font du bien. Mais si une femme est heureuse, elles en disent du mal. Et de même que la plupart d'entre elles ne peuvent pas se résigner à leur bonheur, elles ne croient pas au bonheur des autres. Quand on leur dit qu'une femme est heureuse, elles répondent « Oui, eh ben, nous en reparlerons dans un an ». Et pendant 20 ans, elles le répéteront sans se lasser. Elles ressemblent un peu à ce journal américain qui avait annoncé en 1877 la mort de Victor Hugo. Victor Hugo n'était pas mort. Aucune rectification. Mais 8 ans plus tard, en 1885, quand il est mort réellement, le journal américain a commencé son article ainsi. Nous avons été les premiers à annoncer la mort du grand poète français Victor Hugo. Et évidemment, ça devait arriver un jour. Je crois que la méchanceté des femmes entre elles vient de ce fait qu'il y a plusieurs sortes d'hommes. Les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les hommes mariés, les veufs, les champions, les artistes, les militaires, j'allais dire les prêtres, les aviateurs, les hommes politiques, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tandis qu'il n'y a que 2 sortes de femmes, celles qui sont, comment dirais-je, aimables et celles qui ne le sont pas. Or, celles qui ne le sont pas détestent celles qui sont aimées. Dans un endroit public comme un restaurant, par exemple, ou une salle de jeu, on saisit des regards féminins qui sont bouleversants parfois de cruauté. Et j'ajoute qu'elles ne regardent méchamment que les femmes qui sont accompagnées par un homme. Oh, ça, elles se moqueront jamais d'une femme seule. Oh là là, trop contente d'en voir une qui ait l'air abandonnée. Les femmes ont des trouvailles que les hommes n'auraient certainement pas. Dernièrement, une jeune femme m'a dit ceci. Quand je vois venir à moi une femme qui me dévisage, alors moi, immédiatement, je regarde ses pieds en souriant. Eh bien, ça, c'est infaillible. Elle se trouble et quelquefois même, elle finit par trébucher. Je le répète, je ne crois pas qu'un homme aurait de ces idées-là. Oui, si je me permettais de donner un conseil aux femmes, je leur dirais très respectueusement qu'elles feraient beaucoup mieux, à mon avis, de prendre modèle sur les femmes qui sont aimées plutôt que de les considérer comme des ennemis. Elles s'apercevraient alors que pour être aimée, article 1er, il faut être aimable. Lorsque je dis que je n'aime pas les femmes, j'entends par là que je regrette de ne pas pouvoir m'en passer une journée entière, de ne pouvoir rien imaginer sans elles, ni plaisir, ni voyage, ni distraction, ni travail même. Car si l'idée m'enchante d'un repas pris entre hommes, je dois à la vérité de dire qu'un second repas sans femme me semblerait sinistre. Et en somme, si je me permets de dire que je n'aime pas les femmes, c'est parce que je les adore, bien entendu. Est-il rien au monde qui soit plus ravissant que l'entrée dans un salon d'une femme jeune, jolie et bien habillée? C'est vraiment adorable. On était là, 3 ou 4 hommes, on était entourés d'objets d'art et la conversation était cordiale. Soudain, elle est entrée. Alors, les hommes se sont levés, la conversation s'est brisée en tombant, les objets d'art sont rentrés dans l'ombre, et maintenant, elle accapare l'attention comme elle semble accaparer toute la lumière. On lui offre un fauteuil, elle s'y précipite en croisant le plus haut possible ses ravissantes jambes, elle pose son joli visage sur sa petite main gantée, et elle dit « Continuez, je vous en prie, continuez, je ne vais pas vous déranger, oh là là, mon Dieu !» Et elle a l'air vraiment de quelqu'un qui peut tout entendre, tout comprendre, même la politique étrangère. Et tandis que la conversation reprend, mon Dieu, tant bien que mal, elle fait tout le temps comme ça avec la tête. Et elle a l'air vraiment d'écouter. On jurerait qu'elle écoute. Alors que tout bas, elle se dit, j'aurais tout de même mieux fait de mettre mon petit chapeau noir au lieu de celui que j'ai sur la tête. Les femmes. D'abord, lorsque je dis les femmes, il faut déjà s'entendre. Car il y a devant l'amour trois sortes de femmes. Celles qu'on épouse, celles qu'on aime et celles qu'on paye. Ça peut d'ailleurs très bien être la même. Bah, on commence par la payer, on se met à l'aimer, puis on finit par l'épouser. Mais si l'on peut confondre l'épouse, l'amante et la maîtresse, il ne faut pas confondre le mariage et l'amour. Car si l'on peut très bien ne pas aimer sa femme, on ne peut pas ne pas adorer son amante. Mais d'abord, parlons des épouses. Rien ne me paraît plus beau qu'un jeune homme qui rencontre une jeune fille, qui la trouve jolie, en devient amoureux, le lui dit, l'émeut, la convainc, lui demande sa main, l'obtient, l'épouse, l'aime, s'en fait aimer, ne la trahit jamais, n'est pas trompé par elle, lui fait des enfants, vit avec elle toute sa vie et meurt quelques mois avant elle. Non, rien ne me semble plus beau que certains couples exemplaires. Et à ce propos, voici, tenez, une des plus belles lettres qui soit. J'ai la joie de la posséder autographe. C'est une lettre que Rodin adresse à sa femme en 1913. Il avait à cette époque, je pense, 75 ans et Madame Rodin probablement 65. La lettre est courte, elle a quatre lignes. Il lui écrit ces quatre lignes sans aucune raison, comme il arrive parfois qu'on embrasse tout à coup quelqu'un qu'on aime. Mais avec cette différence que généralement, quand on donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on avait envie d'être embrassé soi-même. Tandis que prendre à 75 ans du papier, de l'encre, une plume, une enveloppe et un timbre pour envoyer quelques mots à quelqu'un dont on est sûr, je trouve ça extrêmement beau. Voici ces quatre lignes. Ma bonne Rose, je t'envoie cette lettre comme une réflexion que je fais de la grandeur du cadeau que Dieu m'a fait en te mettant près de moi. Mets ceci dans ton cœur généreux, je reviens mardi, ton ami Auguste Rodin. Je ne sais pas si vous éprouvez la même sensation que moi, mais moi depuis 15 ans, que j'ai cette lettre sur mon bureau encadrée, jamais je n'ai pu la lire sans être ému. Mais de pareils ménages sont rarissimes. Et ce n'est pas surprenant, car veuillez convenir avec moi que la plupart des mariages se concluent de la façon la plus inconsidérée. Déjà, c'est un prodige qu'un homme et une femme fait pour vivre ensemble, puissent vivre ensemble. Car il y a entre l'homme et la femme une dualité que je crois plus profonde encore qu'on ne pense. L'homme en est d'ailleurs responsable. Son égoïsme, sa vanité, cet instinct qu'il a de la propriété, même à l'état sauvage, nous préparait les femmes dont nous faisons aujourd'hui nos épouses ou nos maîtresses. Sans l'avoir voulu, la femme est devenue l'ennemi de l'homme, et sans le savoir, elle se venge sur nous des cruautés de l'homme d'autrefois. L'esclavage en Afrique, la mutilation des pieds des femmes en Chine, les harems en Turquie, la ceinture de chasteté en France, la traite des blanches, toutes ces monstruosités-là, nous les payons aujourd'hui, car toutes les vertus, toutes les qualités, les femmes les ont en elles. L'intelligence, la bonté, le courage, la patience, l'abnégation, oui, toutes elles les ont. Seulement, je crois qu'elles sont mythomanes. Vous savez, n'est-ce pas, ce que c'est que la mythomanie? C'est le goût, c'est la manie du mythe. Et un mythe, c'est une chose qui n'est pas vraie. Oh, ça ne veut pas dire qu'elles aiment les bijoux faux, par exemple. Non, non, du tout, du tout. Et elles n'aiment pas non plus qu'on leur dise des choses inexactes. Et ce qu'elles préfèrent, c'est en dire elles-mêmes, sachant parfaitement que personne d'abord ne saurait le faire aussi bien qu'elles. Elles possèdent en effet le don merveilleux de dissimuler non seulement la vérité, mais de remplacer cette vérité par un mythe. Les hommes aussi savent mentir, naturellement. Oui, ils savent mentir. Mais ils savent mentir comme les Français savent les langues étrangères. Ils n'ont jamais un très bon accent. Vous savez, n'est-ce pas, que jouer la comédie, c'est mentir avec l'intention de tromper. Eh bien, voilà la raison pour laquelle les femmes jouent mieux la comédie que les hommes. Et je vais vous prouver pourquoi les actrices jouent mieux que les acteurs. Nous, comédiens, nous éprouvons le besoin, parfois même la nécessité, de nous faire des têtes pour jouer certains rôles. Nous mettons des perruques, nous nous collons des moustaches, des barbes, des favoris, nous mettons des binocles, des monocles, des lunettes. Les femmes ne le peuvent pas. Qu'elles jouent une impératrice, une cuisinière, une religieuse, une fille publique, elles jouent tous les rôles avec le même visage, donc vraiment, quel talent il leur faut. Lorsque j'ai joué le rôle de Napoléon III, naturellement, je me mettais une perruque avec les cheveux qui revenaient un peu de côté sur les tempes, je me collais une barbiche, de longues moustaches cirées, et mon Dieu, ce n'était pas trop mal. Mais quand Madame Sarah Bernhardt a joué Marie-Antoinette, elle n'a pas pu modifier son visage. Seulement, comme elle avait du génie, elle ressemblait beaucoup plus à Marie-Antoinette que je n'ai pu ressembler à Napoléon III. C'est d'ailleurs la première fois qu'on nous compare tous les deux, et la dernière fois sans doute. Donc, disons-le, répétons-le, avouons-le et inclinons-nous, elles savent mieux mentir que nous. Des gens vous diront même qu'elles sont hypocrites et méprisantes. Je leur répondrai, mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement, puisque leur amour, pour nous, peut être simulé de la première à la dernière seconde. Déjà, leur instinct me paraît supérieur au nôtre en toutes circonstances, mais dès la minute où nous les désirons, la lutte devient alors inégale et nous sommes à leur merci, puisque nous ne pouvons jamais répondre de nous, alors qu'elles sont toujours sûres d'elles-mêmes. D'un regard, elles nous donnent des vertus, que d'un sourire, elles nous reprennent. Combien elle est inégale, en effet, cette lutte, puisqu'elles peuvent en outre nous donner des enfants qui ne sont pas de nous. Je n'ai pas insisté sur la difficulté que nous aurions à leur rendre l'appareil. Mais si nous avons le devoir de constater qu'elles sont mythomanes, avons-nous le droit de le leur reprocher? Non, mille fois non. Car le coupable, c'est l'homme. Quelle que soit la disgrâce physique d'un homme, quel que soit son âge, que veut-il à tout prix que la femme lui dise « je t'aime » Et lui demandant de nous mentir sur ce point capital, devons-nous être surpris qu'elle nous mente sur d'autres points? Oui, le mensonge mène à l'infidélité, car c'est à force de mentir qu'une femme finit par tromper. Elles sont élevées dans le mensonge, et les femmes ne cesseront jamais de mentir tant que les mères auront des filles. Avant de vous parler d'amour, laissez-moi vous dire deux mots de la femme moderne. Mais d'abord, y a-t-il une femme moderne? Eh bien oui, je le crois. Et c'est un fait extrêmement rare. C'est un fait qui ne s'est guère produit que 3 ou 4 fois depuis le Moyen-Âge. Aucun peuple, je crois, ne peut se vanter d'aimer individuellement les femmes autant que nous. Mais hélas, je crois bien qu'il est temps d'en parler au passé. Et je vois à cela deux causes, deux raisons. D'abord, depuis 20 ans, la femme est devenue la rivale de l'homme dans tous les arts, dans tous les sports et dans la plupart des métiers. Or, la rivalité n'engendre pas l'amour et tue la courtoisie. D'autre part, elle a voulu être libre. Elle l'est aujourd'hui. Elle en est extrêmement heureuse. Seulement, je crois que son règne est fini. Elle vous dira que son règne commence, mais je crois bien qu'elle se trompe. Balzac disait que la femme était une esclave qu'il fallait mettre sur un trône. Quand vous dites cela aujourd'hui à une femme, elle vous répond, penses-tu, c'est fini ces blagues-là. Il y a 20 ans, les femmes demandaient la liberté pour toutes les femmes. Aujourd'hui, chacune d'elles demande sa liberté personnelle. D'ailleurs, elle ne la demande pas, elle la prend. Elles nous étaient supérieures, elles sont devenues nos égales. Elles sont libres, seulement nous aussi. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, nous hommes, que nous ne l'étions pas autant qu'elles le croyaient. Elles disaient, nous sommes en prison et nos maris sont nos geôliers. Elles semblaient ignorer que les geôliers aussi vivent dans les prisons. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les geôliers et les prisonniers. Et quand on libère les prisonniers, on libère aussi les geôliers. Et pour finir, parlons d'amour. Parlons des amants. Parlons de celle dont c'est la profession d'aimer. Cette fois, je ne dis pas le métier, je dis bien la profession. Car il y a des femmes dont c'est réellement la profession. Dans tous les mondes, il y en a. Bourgeoises, actrices ou grandes dames, elles commettent des crimes, inspirent les poètes et nous font croire quelquefois que le paradis est sur la terre. Eh bien, il y a des hommes dont c'est également la profession d'aimer. Quand ces deux êtres-là se rencontrent, ils deviennent des amants et ils font de l'amour comme deux pôles qui se rencontrent font de la lumière. Je voudrais définir ce que sont les amants. Je crois qu'un véritable amant est un homme qui part de ce principe que c'est la seconde fois qu'elle aime, qu'une femme aime le mieux, le plus et le plus longtemps. Et je crois qu'une véritable amante est une femme qui préfère un homme à un autre. Les amants sont en général des êtres immoraux, d'ailleurs inconscients des crimes qu'ils commettent et des chagrins qu'ils causent. Étant réellement la proie de la passion qui les dévore, ils sont tellement heureux ou bien si malheureux que le bonheur ou le malheur des autres leur semble négligeable. On dit d'un homme qu'il est cruel quand il n'aime plus. C'est inexact. C'est quand il aime qu'il est cruel, mais parce qu'il aime une autre femme. On est sans pitié quand on aime. Et c'est normal, en somme, puisqu'on n'a même pas de pitié pour soi-même. Les amants compromettent leur carrière, leur fortune, leur santé même, sans réfléchir un seul instant. Un être véritablement amoureux, homme ou femme, ne vit que pour l'être qu'il aime. Il ne peut voir que lui, et tout le reste est dans l'ombre. Il en mourra peut-être, il le sait, mais il pense qu'il vaut mieux en mourir que de vivre sans avoir aimé. Et à chaque nouvel amour, il se retrouvera tel qu'il était jadis à son premier amour. Oscar Wilde l'a merveilleusement exprimé dans cette pensée. Pour retrouver sa jeunesse, il n'y a qu'à recommencer ses folies, et comme il a raison de dire ses folies, car un nouvel amour doit être une folie en apparence, car on a vu de ces folies qui ont duré pendant 20 ans. Or, une folie qui dure 20 ans n'est plus une folie, si ces deux êtres-là sont heureux. Seulement voilà, sont-ils heureux? Question à laquelle il est en vérité bien difficile de répondre. Chacun a sa conception personnelle du bonheur. Et dame, passer 5, 10, 15, 20 ans de sa vie à se regarder dans le blanc des yeux, à se surveiller constamment soi-même, à ne jamais dire un mot, à ne jamais faire un geste qui puisse froisser l'autre ou lui faire de la peine, c'est quelque chose d'occupant. Mais je dois avouer que c'est ainsi que je comprends la vie, c'est ainsi que je comprends l'amour. Je trouve absolument normal qu'un homme fasse de sa vie deux parts égales, consacrant l'une à son travail, l'autre à la femme qu'il aime et dont il est aimé, car il faut adorer la femme que l'on aime. Sinon, à mon avis, il vaut mieux vivre seul et travailler le double.
Il faut adorer la femme que l'on aime. Hein? C'est des bonnes paroles, ça?
Ouais.
Si on
n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce qu'on a.
Si on en aime une, hein, il faut en...
Excellente suggestion de Katie pour finir, pour atterrir cette émission. On va parler des plus belles chansons d'amour et en bruit de fond, je vais. J'ai dit bruit de fond.
Ouais, ouais. Mets ton bruit de fond.
Non, c'est horrible.
Si, mets ton bruit de fond.
Excuse-moi, Nina.
Nina Simone.
Ouais. Alors.
Oh, elle va pas se vexer.
Non, je crois pas.
Ouais, on va essayer de la retrouver. Elle a écrit des bonnes chansons d'amour, mais on n'arrive pas à trouver lesquelles. Mais bon.
Elle les écrivait pas.
Elle a repris Brel.
Ouais, mais je pense pas qu'elle ait jamais. Elle a interprété au piano, parce que c'était une gigantesque pianiste. De formation classique.
Exact, de formation classique. D'ailleurs, c'était son grand désespoir qu'elle a pas.
Oui.
Hein?
Oui. Ouais. Discrimination, quoi.
Elle a tout fait pour la musique. Hein. Dans sa vie, il n'y a que la musique qui comptait. Quoi. D'ailleurs, ça l'a.
Quelle est la chanson, Yvan, qui touche le plus?
Je ne sais pas. Nina Simone, je ne me rappelle pas. Je ne connais pas tout son répertoire, d'abord. Et puis, je trouve que la reprise de Brel était très bien. Ne quitte pas. Moi, les chansons d'amour, moi, je suis plus musique américaine et tout ça, quoi. Donc, c'est plus. Pour moi, c'est Rocky Erickson. Chanteur du 13th Floor Elevator, qui a eu une histoire d'ailleurs assez invraisemblable avec la justice et les hôpitaux psychiatriques d'ailleurs, et des électrochocs et tout ça, qui a eu une vie complètement catastrophique après, et qui a fait un retour récemment, qui est passé à Auckland. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a écrit les chansons d'amour les plus honnêtes et les plus émouvantes. Rocky Erickson, regardez. Et pour toi, quelles sont tes chansons d'amour préférées?
Écoute, comme ça, là, il n'y en a pas 36 000. Elle court la maladie d'amour.
Tu es viré.
C'est qui écrit ça?
C'est le grand Michel.
C'est Michel Sardou.
Ah, okay. Bah, c'est bien.
Non, moi je préfère Claude François, si tu vas à Rio.
Ok.
N'oublie pas de monter là-haut. Attends, monte le son. C'est le piano derrière. Tiens, tu vas l'écouter ce soir chez toi, Kitty, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps.
Ouais.
Artiste incroyable quand même, Nina Simone.
Ouais.
Artiste de blues. Hein.
Bipolaire.
Ouais.
Bipolaire, ouais. Comme Lou Reed.
Ah bon?
Ouais. Puis comme Dali.
Ouais.
comme beaucoup d'artistes d'ailleurs.
Plus froid, Lou Reed, dans le genre bipolaire. Plutôt pôle sud, ouais.
Lou Reed très. Ouais, assez froid, ouais. Nick Cave aussi, pas mal froid.
Ouais. Plus distant.
Un peu distant, ouais. Ouais. Bah, Nina Simone, c'est pas non plus tout rose. Hein.
Ah non. Non. Non, j'aurais pas aimé. Ouais. Ouais. Imagine une engueulade avec Nina Simone.
Écoute, c'est marrant, je disais il n'y a pas si longtemps qu'elle
a attaqué... Il faut que tu le dises vite, il nous reste 10 secondes.
Elle a attaqué un de ses producteurs à l'arme, parce qu'il ne voulait pas la rémunérer à sa bonne valeur. Voilà. Elle ne s'est pas laissée...